C'est l'heure de retrouver Pensez donc avec vous, Laurence Luret, bonjour.
Bonjour Eric.
Gros plan ce matin sur les révolutions du 21e siècle qui changent nos façons de vivre, nos façons de penser. Vous en parlez ce matin avec votre invité, le philosophe Yves-Charles Zarca.
Bonjour Yves-Charles Zarca.
Bonjour.
Révolution numérique, comme on le voit avec les fake news et le projet de loi débattu à ce sujet à l'Assemblée depuis jeudi dernier, ou changement climatique. Pourquoi parlez-vous d'un temps révolutionnaire, peut-être le plus révolutionnaire de tous les temps qui nous ont précédés?
C'est le centre de l'ouvrage que nous avons publié, donc les révolutions du XXIe siècle, depuis la Révolution française, parce qu'il y en a eu plusieurs, Révolution française, Révolution russe, Révolution chinoise, Révolution cubaine, etc. À chaque fois, la Révolution, bon, toujours avec un grand R. Et ces révolutions-là ont toujours été conçues comme résultant d'un processus historique, mais malgré tout, exigeant nécessairement une prise de conscience collective et une action, une volonté. Donc ce sont des révolutions qui n'auraient pas pu être si elles n'avaient pas été conçues et voulues.
C'est pas le cas. Les révolutions, non. Vous parlez des révolutions.
Voilà, révolution avec un petit R et au pluriel. C'est-à-dire des processus qui conduisent à des bouleversements. S'il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de révolution. Cependant, ces bouleversements-là ne sont pas du tout ni voulus ni préconçus. Et ils se sont mis en place, certes, avec l'action des hommes, mais pas du tout comme objet de volonté. La révolution écologique, qui transforme de fond en comble notre rapport à la Terre et qui doit induire des modifications fondamentales dans les manières de vivre et de développement, elle n'a pas été l'objet d'une volonté. Personne ne l'a voulu.
Mais on l'a subi tous.
La révolution informatique, qui est d'un autre statut, elle s'est mise en place progressivement, elle s'étend. On ne peut pas dire à l'avance qu'au départ, il y avait une volonté pour la mettre en place. Mais elle change toutes les dimensions de notre existence, et pas seulement au niveau local, au niveau international. Il est impossible d'y échapper. Ça transforme les relations, bien entendu. Pensez aux amis de Facebook, Je vais souvent en Chine, j'étais en Chine il y a quelques mois encore. On ne peut plus rien faire sans le portable. Même prendre un taxi, c'est impossible sans le portable. Vous payez avec le portable. Moi, je paye avec de la monnaie. Et vous regardez comme un dinosaure qui paye avec de la monnaie. Donc, et alors, ça touche aussi les manières de produire, les manières de consommer et les manières d'échanger, etc. Personne n'y échappe. Les révolutions biotechnologiques. On ne peut pas dire qu'au départ, on avait la volonté de transformer la parenté, la famille. C'était pas un projet. Et toute l'existence sociale est complètement modifiée. Vous voyez qu'il y a des bouleversements considérables qui se mettent en place et qui se réalisent, qui transforment actuellement de fond en comble. Il n'y a pas un secteur de la vie individuelle ou collective qui ne soit affecté et qui sont des révolutions ni conçues ni voulues.
Mais c'est un progrès ou pas, Yves-Charles Zarca? Parce que ça augmente nos libertés.
Alors, dans cet ouvrage, nous n'avons pas pour objet de porter de jugement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces évolutions-là, ces révolutions, les conséquences sur nos existences, eh bien, elles sont paradoxales. Parce que d'un côté, vous parliez de la révolution informatique, on peut dire que nos libertés se sont étendues. On a des possibilités de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait pas auparavant. Donc, elles semblent augmenter la liberté. Et en même temps, elles accroissent les dépendances radicales, ce que j'appelle, pour ma part, de nouvelles servitudes. Donc, on a affaire à un véritable paradoxe. D'un côté, ce qui est vécu comme une extension de liberté est en même temps soumission à un ordre que l'on contrôle absolument pas.
Autre révolution, Yves-Charles Zarca, la biotechnologie. Vous expliquez que les âges de la vie ont changé, la procréation aussi. Comme si, dites-vous, notre volonté pouvait tout dominer. Là aussi, c'est un progrès ou pas?
Alors, voilà, l'évolution des biotechnologies ont transformé radicalement les choses. Elles ont bouleversé le mode de procréation, elles ont bouleversé la parentalité, elles ont bouleversé la structure de la famille. Alors là encore, il y a comme la croyance en une possibilité de maîtrise complète de notre propre destin. Là encore, c'est la puissance et l'impuissance. Ce qui est vécu comme une puissance plus grande et correspond à une réduction radicale de puissance.
Mais c'est ça qui est pas facile à comprendre, Yves-Charles Zarca, parce que vous expliquez que tous ces bouleversements semblent rendre l'humanité plus puissante. Or, elle la rend beaucoup plus dépendante de processus qu'elle ne maîtrise plus, selon vous. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Écoutez, c'est la manière dont les choses sont vécues subjectivement ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe. Ce qui est vécu subjectivement comme liberté est en vérité, dans les faits, un mode de dépendance plus grand. Je reviens à l'exemple informatique, qui, d'un certain côté, étend nos possibilités. Mais d'un autre côté, ça met en place des modes de contrôle qu'on n'a jamais auparavant.
Une sorte de contrôle social, vous voulez dire ?
Mais, bien entendu, contrôle par des sociétés privées et des sociétés internationales, contrôle dans certains cas, je parlais de la Chine tout à l'heure, contrôle étatique, notation des citoyens par rapport aux actions qu'ils commettent.
Reconnaissance faciale ?
Également, et vous rendez compte. Et donc, on a encore ici un paradoxe très grand.
Yves-Charles Alcar, pour conclure, s'il vous plaît, en quelques minutes, parce que l'horloge est impitoyable, pourquoi dites-vous que la meilleure façon de prendre en charge ces révolutions, c'est d'être pessimiste ?
Ah, pourquoi ? Parce que je reprends cette formule qui n'est pas de moi, à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Walter Benjamin. Et justement, lui s'opposait radicalement à l'idée du progrès et à toute espèce d'optimisme. Parce qu'il disait que l'optimisme, finalement, c'est toujours un optimisme béat qui consiste à attendre que les choses se fassent et être sûr qu'elles vont arriver. Alors que le pessimisme nous met en condition de nous-mêmes prendre en charge la réalité dans laquelle on vit.
Et de reprendre peut-être son destin à bon entendeur. Merci Yves-Charles Arca d'être venu nous parler de ce livre collectif à ne pas manquer. Alors 600 pages, c'est vrai, presque, mais de très nombreuses contributions comme Dominique Schnapper, Étienne Klein, Christian Godin, Mireille Delmas-Martier, beaucoup, beaucoup d'autres. Vous pouvez picorer par chapitre et thème abordé, c'est passionnant. Et bien sûr, pensez donc, c'est aussi en réécoute ou en podcast sur le site de France Inter, Eric.
Oui, et pour ceux qui veulent prolonger la réflexion, eh bien, je rappelle le titre du livre de votre invité, le philosophe Yves-Charles Arca, ça s'appelle « Les révolutions du XXIe siècle » et c'est aux presses universitaires de France.